Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, émission ce soir en partenariat avec le journal La Croix. Quelles que soient leurs orientations politiques, tous les candidats à la présidentielle, et ils sont nombreux aujourd'hui, partagent la même conviction. Avec eux au sommet de l'État, on fera mieux sur le terrain de l'emploi. La lutte contre le chômage est un incontournable des campagnes électorales. Il faut dire que depuis plus de 30 ans, malgré les périodes d'embellie, son taux n'est jamais redescendu en dessous de la barre des 7% de la population active. Il est aujourd'hui légèrement inférieur à 10% sur l'ensemble du territoire. Quoi qu'il arrive désormais, le quinquennat aura été un échec en matière de lutte contre le chômage. Le gouvernement n'a pourtant pas manqué d'initiatives en la matière. CICE, loi travail, loi sur la sécurisation de l'emploi, sans compter les interventions d'urgence de type Alstom. Aux anciens dispositifs sont venus s'en ajouter de nouveaux, sans réussir à infléchir durablement la fameuse courbe. On se souvient de François Mitterrand qui pensait que dans ce domaine, on avait tout essayé. De l'aveu de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Ce sont pourtant bien des promesses de retour au plein emploi qui sont à nouveau formulées dans cette campagne présidentielle. Alors s'agit-il de pures promesses de candidats, de solutions miracles pour lutter contre le chômage? Peut-on encore promettre le plein emploi? Eh bien, c'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de Karine Charbonnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes la coprésidente de Bec Industrie, qui est une entreprise de visserie. De boulonnerie, et qui compte 630 salariés, dont 300 à Armentières, dans le Nord. C'est le siège de l'entreprise, si j'ai bien compris.
C'est exact.
Vous êtes par ailleurs vice-présidente de la région Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il faut encore le rappeler un petit peu, hein, c'est issu de la réforme territoriale. Vous y êtes en charge des formations et des relations aux entreprises, et vous allez publier d'ici quelques jours un livre chez Albin Michel qui s'intitule
« Patron, tenez bon ».
Pour discuter avec vous, Pierre Larouturou, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, ancien membre du Parti Socialiste, parti que vous avez quitté en 2013 pour créer notre formation, Nouvelle Donne, dont vous êtes toujours un des dirigeants.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, parce que dans la presse, vous avez été, semble-t-il, mis en minorité par une partie de la formation.
Il y a des choses compliquées, mais c'est pas grave.
En tout cas, vous y êtes toujours aujourd'hui. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas du tout l'objet de l'émission. Vous avez publié au mois de juin dernier avec Dominique Méda, Einstein avait raison. Il faut réduire le temps de travail. La réduction du temps de travail, c'est un de vos grands combats. C'est un livre que vous avez publié aux éditions de l'Atelier. Puis comme chaque premier jeudi du mois, donc nous sommes en partenariat avec le journal La Croix et avec son directeur Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
On a décidé donc tout au long de cette année d'aborder quelques-uns des grands sujets de débat de la présidentielle. Début septembre, c'était les inégalités et l'école. Et donc aujourd'hui, l'emploi. Et c'est également d'ailleurs le thème que nous abordons ce soir qui fait l'objet de la double page débat de ce jour dans le journal La Croix avec nos deux invités, Pierre Larouturou et Karine Charbonnier. Alors peut-être pour commencer, je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur ce que vous entendez par plein emploi. Pierre Larouturou, quand on est économiste, plein emploi, ça ne veut pas dire zéro chômeur, mais ça veut dire un niveau de chômage qui est en deçà de, en général, on parle de 5%.
Voilà,
c'est ça?
Dans les livres d'économie, on va vous dire qu'il y a toujours du chômage frictionnel et que s'il n'y a que 4 ou 5% de chômage, tout va bien. Dans la vraie vie, ce qui intéresse les gens, c'est est-ce que tout le monde peut vivre dignement? Quelle est la qualité de vie des gens? Et on voit que ces chiffres ne signifient plus grand-chose. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a que 4,7% de chômage. Donc on pourrait dire tout va bien. Mais le gouvernement avoue que tous les mois, il y a 300 000 ou 400 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont découragés, ils ne vont plus s'inscrire. Donc le chiffre du chômage ne veut rien dire et la plupart des gens pensent que le bon indicateur, c'est le taux d'activité, le pourcentage des adultes qui sont sur le marché du travail. Le taux d'activité aux États-Unis est tombé à 62%. Il n'y a plus que 62,3% des adultes qui sont actifs.
Donc vous dites tout de suite, il ne faut pas forcément regarder du côté des États-Unis pour voir le plein emploi.
Et alors donc, je pense que l'objectif fondamental, c'est ce que disent les gens de la tête des Carmontes, c'est zéro chômage de longue durée, zéro chômage d'exclusion. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y aura plus du tout de chômage, mais ce n'est pas grave si on a 6 mois de chômage entre deux boulots, si on a un vrai accompagnement ou même 1 an de chômage avec derrière un vrai boulot. Donc je pense qu'on a, si on le veut dans notre pays, on pourrait se dire dans 5 ans, on a 0 chômage d'exclusion et ça c'est un bon plein emploi.
Est-ce qu'à l'échelle de la région Hauts-de-France, Karine Charbonnier, le plein emploi peut être un objectif politique sur la mandature, c'est-à-dire sur les 6 ans de présidence de Xavier Bertrand, puisque c'est votre président, ou bien est-ce que vous iriez plutôt du côté de Pierre Larouturou en disant on est plutôt dans un objectif de 0 chômage de longue durée?
Au niveau d'une région, ça n'a aucun sens. Ce serait mentir qu'on peut avoir une politique régionale, puisqu'il y a un certain nombre de facteurs nationaux qui impactent et qu'on ne peut pas changer au niveau régional. Ce qui est certain, c'est que les Hauts-de-France ont un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne nationale et que, par conséquent, on peut considérer que nous avons un travail à mener pour entrer dans la moyenne nationale.
C'est la région la plus touchée par le chômage, la région métropolitaine,
faut préciser. En métropole, voilà. C'est exact, tout à fait. Tout à fait. Je suis assez d'accord sur cette définition de l'importance du taux d'activité. Mais par exemple, si on compare la France à ses voisins européens, pour ceux que je connais un petit peu de ma vie praticienne de chef d'entreprise, l'Angleterre et l'Allemagne ont un taux d'activité qui est très très largement supérieur à la France, environ 10 points si j'ai bonne mémoire, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Et donc on peut penser que le plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage inférieur à 5% et un taux d'activité élevé, se trouve dans d'autres pays européens.
Juste pour information, la dernière fois que le taux de chômage a été en deçà de la barre des 5% en France, c'était en 1979, c'était 4,8% sur l'année, c'était les chiffres du Bureau international du travail. Question de Guillaume Goubert.
Oui, Pierre Larouturou y a fait allusion. Le projet d'ATD Quart-Monde de développer des territoires zéro chômage en activant, comme on dit, les dépenses d'indemnisation pour financer des emplois. Karine Charbonnier, est-ce que ça vous paraît une piste intéressante? C'est une chose qui est en cours d'expérimentation sur des territoires limités.
Oui, mais la région de France s'est portée volontaire dans plusieurs territoires pour expérimenter ce territoire zéro chômeur porté par ATD Quart-Monde, qui à ce stade est un projet d'expérimentation, qui a un cadre, il y a une loi qui a été voté pour pouvoir l'expérimenter. Mais quand on rencontre l'association ATD Quart-Monde, ils sont eux-mêmes très prudents et bien conscients qu'on en est au stade de l'expérimentation. Évidemment, le chômage de longue durée est un scandale que tout le monde reconnaît et sur lequel il faut innover et trouver des solutions. Cela étant dit, le partage du travail, pour moi, est peut-être une solution pour réduire le taux de chômage, mais n'est pas une solution pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Parce que partager le travail, ça ne veut pas dire accroître la richesse globale. Et donc, ça veut dire que on va partager aussi le pouvoir d'achat, ce qui fera peut-être une société plus juste, mais qui sera quand même notoirement insuffisant à l'échelle d'un pays.
De mémoire, le projet d'ATD Quart-Monde, hein, c'est créer des entreprises ad hoc où les chômeurs viennent proposer leurs compétences et en retour, voilà, ils essaient de, on leur propose du travail. Vous évoquiez le partage du travail, Karine Charbonnier. Alors là, vous allez directement sur le grand sujet qui est celui de Pierre Larouturou. Le partage du travail, ça a été dans les dernières années la loi sur les 35 heures avec toujours des débats d'ailleurs pour savoir si ça a véritablement été efficace ou en tout cas suffisamment efficace pour créer beaucoup d'emplois. Vous dites aujourd'hui il faut passer au stade supérieur, aller sur la semaine de 4 jours. Vous partez de quel constat? Il n'y a pas suffisamment d'emplois pour tout le monde, donc il faut le partager?
On se rend compte, d'abord c'est pas la baguette magique. Comme dit, c'est mon grand sujet, ça fait 20 ans que je me bats là-dessus, mais je me bats aussi pour qu'il y ait un traité de l'Europe sociale, je me bats aussi pour qu'il y ait un plan Marshall avec les amis de Nouvelle Donne ou avec Michel Rocard. Il y a 3 ans, on a fait un livre où il y avait 15 propositions contre le chômage, comme la Banque Centrale Européenne va créer 1000 milliards, est-ce qu'on met ces 1000 milliards sur les marchés financiers ou est-ce qu'on les met pour un plan Marshall qui pour sauver le climat, qui peut créer 5 millions d'emplois en Europe? Donc il n'y a pas de baguette magique, c'est ça qui est fatigant en France, qu'on s'étripe, on s'engueule pour savoir si tel ou tel a trouvé la baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique.
Bah, à vous lire dans la croix, on a quand même l'impression que vous l'avez trouvé, puisque vous dites avec la semaine de 4 jours, on va créer entre 1,5 million et 2 millions d'emplois.
C'est pas moi qui le dis, c'est les entreprises qui ont déjà expérimenté, parce que moi je pense qu'on ne peut pas faire de grands mouvements généraux si on expérimente pas. Souvenez-vous la loi de Robien, l'idée que c'était qu'on veut voir si c'est possible. C'est Antoine Riboud, celui qui a lancé le débat sur la semaine de 4 jours,
patron
c'est
Danone.
Pas moi, c'est le patron, un des plus grands patrons européens qui en 93 a dit, avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence des salariés, il y a de plus en plus de formations, on produit beaucoup plus de richesses avec moins de travail. Et c'est des gains de productivité que personne ne peut contester. De deux choses l'une, ou bien c'est le marché qui va répartir le travail, et il y a des millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine et les autres continuent à faire 39 heures ou 40 heures. Et il y a une souffrance pour les deux côtés, ou bien on est capable de négocier, non pas d'imposer, mais de négocier une autre façon plus intelligente de répartir le travail. Avec l'idée que si l'entreprise passe à 4 jours et si elle crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. C'est comme ça qu'on a déjà 400 entreprises en France, aussi bien des entreprises petites avec 3 salariés ou 5, ou bien d'autres comme Maminova ou Fleury Michon avec 800 salariés ou 1000, où ils sont tous passés à 4 jours. Soyons clairs, l'entreprise continue à travailler 5 jours par semaine. On ne va pas fermer l'électricité le jeudi soir. Tout le monde est passé en moyenne, c'est souple, à 4 jours. L'entreprise, Maminova, a embauché 130 personnes, 130 embauches, et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage. À l'époque, c'était la CFDT qui avait proposé cette idée en disant « En France, on met des milliards et des milliards pour indemniser le chômage. Est-ce que si l'entreprise crée des emplois, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un peu mieux ses dépenses de chômage ?»
Alors, imaginons
cette étude, à partir de ces 400 pionniers, on estime qu'on pourrait créer 1,5 million d'emplois s'il y avait un mouvement intelligent et bien négocié.
Alors, imaginons que ce dispositif-là soit appliqué et donc que vous puissiez, en tout cas vous, le mettre en place dans l'entreprise que vous dirigez, Beck Industries. Karine Charbonnier, est-ce que c'est quelque chose d'abord qui vous intéresse et qui serait susceptible de vous faire embaucher davantage de salariés que vous n'en avez aujourd'hui ?
J'ai presque envie de vous dire, la question n'est pas là.
Pourquoi ?
Je suis d'accord pour dire la réduction du temps de travail, éventuellement, c'est un progrès de civilisation, pouvoir mieux répartir son temps, équilibrer sa vie. Mon problème n'est pas là. Je pense que c'est très difficile de changer les organisations des entreprises, mais on peut toujours le faire. Par contre, à la limite, moi je me place plus du point de vue du salarié que du chef d'entreprise. À partir du moment où on fait travailler tout le monde à temps partiel, parce que c'est ça, travailler 32 heures par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Non, il n'y a pas de baisse de salaire, madame. C'est une grande différence, c'est que les entreprises qui sont passées à 15 jours, il y a eu un blocage de salaire pendant un an, mais il n'y a pas eu de perte de salaire. Les gens gagnent en qualité de vie, on crée des emplois.
J'entends à court terme, vous dites qu'il n'y a pas de réduction de salaire, et on peut revenir après sur les mécanismes que vous proposez qui m'interrogent beaucoup sous plein d'aspects. Mais il y a forcément un équilibrage qui fait dans le temps, et on ne peut pas gagner plus que la valeur ajoutée qu'on produit. C'est mécanique. Et donc, on gagne forcément sa vie à proportion du travail qu'on produit, de la valeur ajoutée qu'on produit. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il vaudrait mieux augmenter le salaire de tout le monde, éventuellement au moyen des baisses de charges dont vous parlez, et qu'après chacun décide si ce pouvoir d'achat supplémentaire, on préfère l'utiliser pour travailler à temps partiel ou continuer à travailler à temps plein. Parce qu'en plus, on peut avoir des enfants qui étudient des fortes dépenses familiales, ou on peut avoir un conjoint qui vient de perdre son emploi, ou au contraire, dire on a un couple, on travaille tous les deux, effectivement, on a envie de travailler tous les deux à temps partiel. Mais généraliser et imposer un temps partiel pour tout le monde, ça me paraît,
personne ne propose de l'imposer. J'avais fait un livre qui s'appelait 35 heures de double piège où je m'opposais à la méthode des lois Aubry. Donc personne ne dit qu'il faut l'imposer. Mais aujourd'hui, il y a un certain partage du travail qui est imposé par le marché. Il y a 4 millions de chômeurs qui font 0 heure par semaine. Et des millions de salariés qui travaillent trop et qui n'ont pas de temps pour leur vie personnelle ou pour leur vie de famille. Le partage du travail actuel est stupide et les seuls à qui il profite, c'est aux actionnaires. Parce que quand vous avez autant de chômage, la négociation sur les salaires, dans tous les pays d'Europe, la négociation, c'est si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc dans tous nos pays, ce qui va au salaire diminue et ce qui va au dividende explose. Même le FMI disait la semaine dernière, Madame Christine Lagarde disait, le problème n'est pas la compétitivité, le problème c'est que la planète s'enfonce dans une crise de la demande. Il y a trop de chômage, trop de petits boulots et la part des salaires dans tous les pays occidentaux est trop faible. Donc même le FMI dit attention, le problème, la société de consommation a besoin de consommateurs. Le premier qui a baissé le temps de travail, c'est Henry Ford, qui est passé à la semaine de 5 jours sans baisser les salaires. Ford disait, je veux que tout le monde ait un boulot et un salaire. Je mets en place la semaine de 5 jours sans baisser les salaires. Tout le monde a rigolé, mais après la crise de 1929 et après la Deuxième Guerre mondiale, dans tous nos pays, on a mis en place la semaine de 5 jours sans baisse de salaire.
Alors écoutons la réponse à nouveau de Karine Charbonnier et ensuite une question de Guillaume Goubert.
Le problème, c'est que la semaine de 32 heures, aujourd'hui, il faudrait la faire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils sont compétitifs et nous, on ne l'est pas. Et vous dites, ce sont les actionnaires qui se sont mis de l'argent dans les poches. Pas en France. La France a les entreprises qui ont les marges les plus faibles. Les gains de productivité partent chez les clients pour essayer de se battre par rapport aux concurrents. Et je pense que c'est pas la réalité du tout de dire que les gains de productivité sont partis dans la poche des actionnaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le surcroît de charges sociales qui sont payées, qui est un impôt qui est payé sur le travail, sur les salaires, ça comprime autant les marges des entreprises qui ont les coûts salariaux parmi les plus élevés d'Europe que les salaires des salariés qui ont les salaires nets les plus bas.
C'était vrai il y a 20 ans, la dernière étude de l'INSEE, j'ai regardé dans le RER en arrivant, la dernière étude de l'INSEE dit que fin 2015, le coût du travail est à 37,6 euros en France, 37,6 et 38 en Allemagne. Donc ce que vous disiez était vrai il y a 20 ans, mais depuis 20 ans, il y a eu beaucoup d'exonérations. Écoutez, c'est les chiffres de l'INSEE, pardon.
Moi, j'ai une entreprise en Allemagne, j'en ai une en Angleterre, j'en ai en France, j'ai calculé mes coûts de revient, je suis désolée, on est beaucoup plus cher en France à métier égal, parce que je pense que dans toutes ces moyennes, il y a des histoires de mix.
C'est le coût dans l'industrie, oui. Vraiment c'est les derniers chiffres d'Eurostat,
d'accord.
Et Eurostat.
Oui, oui. C'est pas la réalité que je constate moi dans mon quotidien d'entreprise. Je voudrais quand même dire une chose, parce que vous avez dit, dans les entreprises, c'est si t'es pas bon, t'as qu'à partir,
j'ai dit la négociation sur les salaires est parasitée par la peur du chômage. C'est l'OCDE qui le dit.
Et là-dessus, je suis...
La réalité pour des millions de gens.
Je voudrais... Bon, alors évidemment, je ne pense pas que ça se passe comme ça dans les entreprises, mais je pense qu'effectivement, le chômage généralisé que nous connaissons crée un climat extrêmement malsain, un stress généralisé qu'on peut comprendre tout à fait. Et moi, à nouveau, qui travaille en Angleterre et en Allemagne, je peux vous dire que je préfère 1000 fois être chef d'entreprise dans un pays de plein emploi, où effectivement, il y a une vraie adhésion dans l'entreprise dans laquelle on travaille, et effectivement, où il y a un choix des salariés, et donc où l'ambiance de travail est nettement meilleure. Et donc, de ce point de vue-là, je vous rejoins totalement pour dire qu'une situation de plein emploi est nettement plus saine pour un pays.
Question de Guillaume Goubert.
Oui, pour Pierre Larouturoux, vous avez répondu tout à l'heure à une objection qu'on peut faire à la réduction du temps de travail en disant il ne faut pas faire comme pour les 35 heures, il ne faut pas imposer un système. Bon, ça limite forcément le nombre de candidats, me semble-t-il, à la mise en place des choses. Mais il y a une autre objection qu'on peut faire qui est est-ce que la réduction du temps de travail est adaptée à une évolution de l'économie où les unités sont de plus en plus petites, sont de plus en plus sur des activités de service, où les personnes sont de moins en moins interchangeables. Je veux dire, la réduction du temps de travail peut certainement, que vous parliez de Ford, certes, dans le système fordien, la réduction du temps de travail est relativement facile à mettre en œuvre. Dans des activités de service très qualitatives, c'est beaucoup plus difficile, non ?
Non, on a aussi, c'est un peu plus difficile, mais on a aussi des exemples de PME, de services, d'une agence de publicité qui est passée à 4 jours, d'une entreprise qui fait des logiciels, et c'est là que ça doit être souple. Par exemple, dans cette entreprise, dans les Alpes, pour ceux qui font des logiciels, ceux qui répondent aux clients, ceux qui font la hotline, sont sur un modèle 4 jours, et ils font un quart d'heure de plus tous les jours. Il y en a qui viennent un quart d'heure plus tôt le matin, il y en a qui partent un quart d'heure plus tard le soir. Donc l'amplitude pour les clients s'est améliorée. Et par contre, ceux qui inventent les nouveaux logiciels, c'est plutôt un mois de vacances tous les 4 mois. Donc je vous dis pas que tout le monde va être à 32 heures. Et un autre avantage des 4 jours, c'est que ça donne du temps pour se former. Alors qu'aujourd'hui, un des problèmes de notre économie, c'est que beaucoup de salariés sont dans des PME. Et dans une PME, c'est jamais le bon moment pour se former parce qu'on est en permanence charrette. Et c'est pas le week-end quand on est fatigué ou quand il y a des enfants qu'on va se former. Avoir un jour de libre par semaine, ça peut donner une liberté.
Vous savez que dans la mise en place des 35 heures, la question de savoir à quoi devait être affectée la formation a donné lieu à des débats assez homériques.
Oui, mais
et que les organisations syndicales se sont plutôt opposées à ce que la formation rentre dans le cadre de la réduction du temps
Monsieur
de travail.
Monsieur Goubert, ça vous a pas échappé qu'on n'était que deux à gauche, Michel Rocard et moi, à critiquer les 35 heures. J'ai fait un livre qui s'appelait 35 heures, le double piège. Martine ne voulait pas me serrer la main à l'époque en expliquant
Martine, c'est Martine Aubry.
Oui, voilà. Donc par contre, que dans beaucoup d'entreprises, en fait, on est resté à 37 heures de durée réelle, et si vous baissez de seulement de 2 heures le temps de travail, c'est pas ça qui va créer d'emplois et c'est pas ça qui ouvre un débat qualitatif sur qu'est-ce qu'on fait du temps libre. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'imposer, mais il faut arriver à relancer ce débat. En Belgique, c'est passionnant, depuis quelques mois, c'est le ministre de l'économie à Bruxelles, Didier Gauthier-Huens, qui est un homme du centre droit, qui a lancé le débat en disant « je ne veux pas imposer un mouvement général, je veux expérimenter et relancer le débat ». Et je pense que la seule façon de faire bouger un pays, c'est de parler à l'intelligence des gens, de dire « la croissance ne reviendra plus ». Quand il y a 6 millions de chômeurs en France, ça n'est pas sérieux de construire sur la croissance. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait alors ?
Alors, attendez, Pierre Larouturoux,
juste pour qu'on entende aussi un petit peu qu'on s'en sortira.
Karine Charbonnier, vous évoquiez d'ailleurs un certain nombre d'entreprises qui sont passées aux 4 jours par semaine. On pourrait aussi vous citer des contre-exemples. Depuis le début de la semaine, depuis lundi, l'usine Smart de Hambach en Moselle est repassée à 39 heures, payée 37, suite à un référendum qui a eu lieu dans l'entreprise. Bon, je voudrais savoir, Karine Charbonnier, on va pas faire toute l'émission sur la question de la réduction du temps de travail, qui est évidemment importante, ça mériterait une émission à part entière, mais là on est vraiment dans des sujets beaucoup plus larges. Mais en tout cas, est-ce que la durée du travail dans l'entreprise peut être une variable d'ajustement, soit pour embaucher Karine Charbonnier, soit pour sauvegarder l'emploi ? Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, par exemple, vous avez les moyens, avec notamment la nouvelle loi travail qui privilégie les accords d'entreprise, pour procéder à des ajustements sur la question de la durée du travail ?
Moi, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et avoir un peu de liberté dans la mesure où on peut négocier et se mettre d'accord dans l'entreprise. Je pense que chaque cas est différent et que c'est bien d'avoir un petit peu de souplesse et de pouvoir le faire. Moi, personnellement, si on peut éviter des accords où on réduit les salaires, où on maintient les salaires en augmentant les horaires, je trouve que c'est pas souhaitable. Mais quand il s'agit de sauver un site, il faut pas être dogmatique et tout est utile d'une manière générale. Je voudrais réagir quand vous dites la croissance n'est plus possible. Moi, je pense au contraire.
J'ai pas dit ça. J'ai dit n'est plus la solution.
N'est plus la solution. Moi, je pense au contraire que la croissance est la seule solution, qui en a énormément de leviers pour faire de la croissance, d'autant que de plus en plus, la croissance est immatérielle. Au fur et à mesure qu'elle s'affranchit des biens matériels, elle est plus liée aux ressources écologiques, elle est plus liée, de moins en moins en tout cas, puisque de plus en plus, elle devient immatérielle dans les services.
Ça, c'est faux.
Non, je suis pas d'accord. Je pense que la seule limite à la croissance aujourd'hui, ça devient notre imagination, parce qu'on produit plus en plus de services pour le bien de l'humanité. Et qu'on a beaucoup de ressorts pour créer de la croissance, pour autant qu'on puisse être compétitif et que tous les freins quotidiens qui s'élèvent comme des murs pour les chefs d'entreprise soient levés.
Si vous deviez définir le principal levier pour la croissance, ça serait lequel ?
Aujourd'hui, il y a trois gros leviers. Il y en a un qui est évidemment le coût du travail, parce qu'on ne peut pas déconnecter de nos voisins européens. Il faut qu'on soit dans une moyenne. On n'a pas besoin d'être plus compétitif, mais il faut qu'on soit comparable. Il y a évidemment toute la complexité réglementaire et juridique qui s'abat sur les entreprises françaises, qui est en décalage complet avec nos voisins. Et puis, il y a le problème de la formation, évidemment, puisque, effectivement, l'économie change et qu'on a des challenges pour former et qualifier la population qui sont gigantesques.
Pierre Larotureau.
Il se trouve qu'on a deux points d'accord dans le diagnostic, mais qu'on n'est pas d'accord sur le fond. Oui, et la complexité en France est encore monstrueuse. Les patrons de PME s'arrachent les cheveux le week-end à faire leur comptabilité, à se demander quel est le document qu'ils n'ont pas rempli. Au Canada, quand vous avez 20% de salariés en trop, c'est hyper simple de baisser le temps de travail en maintenant les salaires, tandis qu'en France, on pousse les gens à licencier tellement c'est compliqué le chômage partiel. Donc, il y a un énorme effort de simplification à faire. Après ça, par contre, la question de la formation reste un vrai sujet. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir du temps libre tout au long de la vie pour pouvoir se former en permanence, pour être capable d'évoluer dans son métier ou pour changer de métier.
Vous proposez d'ailleurs une aide pour les PME, c'est-à-dire pour que des PME qui sont souvent soumises à des donneurs d'ordre qui ne les payent pas à temps et pour qu'elles puissent se retourner justement.
Tout à fait, c'est aussi une des propositions de Nouvelle Donne, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 PME qui meurent chaque année, 60 000 PME qui font faillite, souvent parce qu'il y a un donneur d'ordre, un gros client qui ne les paye pas et qui au bout de 3 mois, 4 mois se dit si elle meurt, je n'aurai pas à la payer, elle n'a pas d'avocat, elle ne va jamais me faire, je suis son principal client, elle ne va jamais me faire de procès. C'est 14 milliards qui manquent chaque année dans les caisses des PME à cause de ces retards de paiement. Donc ce qu'on propose, c'est que la Caisse des dépôts ait un rôle de bouclier, de garantie pour les PME, en disant si la facture est valable, si le travail est fait, au bout de 2 mois, la Caisse des dépôts donne l'argent, met l'argent sur la table pour la PME, et la Caisse des dépôts se retourne vers le mauvais payeur. Ça change tout dans le rapport de force. Ce n'est pas une PME tremblante qui hésite à attaquer son mauvais payeur, c'est le mauvais payeur sait qu'il aura face à lui une des plus grandes banques avec les frais de justice. Et qui, voilà. Donc c'est
pas mal ça pour vous, Anne-Marie Charbonnier.
C'est intéressant, mais c'est un petit pansement.
Excusez-moi, ça évite des dizaines de milliers. Mais je ne vous dis pas que c'est l'essentiel, mais je vous dis, vous êtes la première patronne de PME qui réagit comme ça depuis un an. Vous voyez,
c'est étonnant. Il y a plein de patrons de PME qui disent ça. Évidemment que c'est utile, mais ce n'est pas ça qui va nous créer des millions d'emplois.
Je ne vous ai pas dit que c'était l'axe principal, mais si on évite des dizaines de milliers de faillites chaque année grâce à ça, je trouve que c'est plutôt utile.
Je vais même vous donner une anecdote. Cette année, j'ai été contrôlée par l'administration française dans mon entreprise qui est venue vérifier que je payais mes fournisseurs à l'heure. Moi, je suis une petite PME, j'ai des fournisseurs qui sont 10 fois plus grands que moi, ou beaucoup plus, mes clients aussi. Et nous avons dit au contrôleur, pas de problème, venez vérifier les délais de paiement de nos fournisseurs, mais pourriez-vous vérifier aussi les délais de paiement de nos clients ? Et la réponse a été non, je n'ai pas de mandat pour faire ça, donc je ne regarderai pas les délais de paiement.
Les délais de l'État, les demandes de paiement. Pardon, je finis quand même un désaccord.
Brièvement.
C'est que même si on simplifie, même, on n'arrivera pas à relancer la croissance. D'abord, sur une planète finie, on a parlé il y a un quart d'heure dans le journal des dégâts des ouragans. Il faut quand même prendre au sérieux la question du climat qui est en train de se dérégler à vitesse accélérée. Et après ça, même un pays qui a le plus investi dans les technologies, dans l'industrie, comme le Japon, le pays qui a fait le plus de plans de relance, la politique industrielle la plus ambitieuse, n'a que 0,7% en moyenne depuis 20 ans. Le Japon n'a que 0,7% de croissance depuis 20 ans. Donc miser, je ne peux pas montrer mes courbes à la radio, ça ne passe pas bien, mais la croissance en France depuis 50 ans, c'est la même chose en Allemagne, ça n'est pas sérieux de penser que la croissance revient.
Et c'est un cercle vicieux. Et depuis 10 ans, nous n'avons créé aucun emploi dans le secteur privé en France.
C'est faux, madame. C'est faux. J'ai juste, comme j'ai regardé tout à l'heure les chiffres, en Allemagne, entre 2000 et 2015, plus 9% de création d'emplois. En France, plus 14%. Simplement, notre population active augmente beaucoup plus vite que l'Allemagne. Chez nous, plus 13% de la population active. L'Allemagne, seulement plus 5%. Mais donc, c'est faux, madame. Et en Allemagne, c'est surtout des petits boulots à 15 heures par semaine. Et en Angleterre, il y a plein de boulots à 0 heure. Des gens qui ont un contrat, mais qui font entre 0 et 15 heures, suivant ce que décide l'entreprise.
Allez, on essaie,
il y en a très, très peu.
On essaie de continuer un petit peu la discussion, Guillaume Goubert.
Oui, je voudrais prolonger sur le thème de la formation, parce que, effectivement, c'est un sujet très important. Et notamment, je me pose la question. Quand on écoute ceux qui font un petit peu de futurologie, on entend très souvent dire dans 30% des emplois d'aujourd'hui n'existeront plus dans 5 ans, dans 10 ans, enfin peu importe. Mais en tout cas, il y a un certain nombre d'emplois du fait de l'automatisation qui sont appelés à disparaître. On voit bien dans un certain nombre de métiers qu'on est, notamment celui des médias, qu'on est dans une évolution extrêmement rapide et qu'on avance un petit peu à l'aveuglette. Comment gérer ces enjeux de formation pour des métiers dont on ne sait pas forcément très bien ce qu'ils seront demain, Karine Charbonnier?
D'abord, je pense qu'il est vraiment important de bien expliquer qu'il y a un lien direct entre le niveau de qualification et l'emploi. Le taux de chômage des personnes sans aucune qualification est proche de 30%. Les ouvriers qualifiés, le taux de chômage, je pense, descend à 14%. Et les techniciens, le taux de chômage descend à 4%. Donc il y a vraiment un lien très direct entre les deux. Et ce n'est pas seulement une question de formation des salariés tout au long de la vie, comme vous l'évoquiez il y a un instant. C'est aussi le problème des formations initiales. C'est le problème des décrocheurs de l'éducation nationale, qui est un scandale français pour lequel je ne trouve pas de mots. Et c'est aussi le problème de la mauvaise orientation des jeunes dans des filières. On forme des jeunes, on envoie des jeunes dans des filières dont on sait qu'il y a chômage garanti à la fin, parce qu'on forme encore dans des branches, on sait que les métiers n'existent plus. Et par contre, il y a des tas de métiers qui peinent à recruter en France, parce que c'est un paradoxe. On a un taux de chômage dramatique et presque toutes les entreprises se plaignent d'avoir des difficultés, voire une impossibilité de recruter. Ça peut être la restauration, ça peut être l'industrie, ça peut être les métiers du numérique. Enfin, Et tous ces métiers ont des filières de formation qui sont désertées par la jeunesse. Et on a un énorme problème qui n'est pas seulement les métiers de demain, mais c'est aussi les métiers d'aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, parce que ça fait partie de notre taux de chômage aujourd'hui. Et c'est une bombe à retardement, parce que moi, ce que je vois, c'est que le problème, le fossé entre les jeunes non qualifiés et ceux qui ont la chance de vivre dans une grande métropole ouverte sur le monde avec une belle qualification est un fossé gigantesque et une vraie bombe à retardement.
Pierre Larouture, est-ce que ça n'est pas ça le levier essentiel pour lutter contre le chômage, pour créer des emplois, la formation?
C'est pas le levier, mais par contre, je suis totalement d'accord. Elle n'a pas dit que c'était le levier, parce que il faut que les gens soient qualifiés. Mais s'il n'y a pas d'emploi derrière, ça ne suffit pas. Par contre, je suis totalement d'accord. Peut-être que c'est un scandale que notre pays se résigne à avoir 10% ou 12% des enfants qui sont en situation d'échec scolaire quand ils arrivent en sixième.
Mais sur la question de l'inadéquation aussi des formations initiales avec la réalité du marché du travail.
D'accord, pour dire qu'il faut développer l'apprentissage, ça va mieux qu'il y a 20 ans là aussi. Dans tous les domaines, on améliore l'apprentissage. Mais oui, ça doit être fait avec une gestion par les métiers. Le problème, c'est que beaucoup de patrons de PME, et c'est pas une critique, sont pris par le quotidien. J'ai un de mes frères qui est patron dans le bâtiment, qui sait jamais si son entreprise sera encore là dans 6 mois. Donc, il a jamais le temps de s'occuper des questions de formation au niveau de la région. Et quand tout d'un coup, il décroche un gros contrat, il va piquer chez le concurrent un carreleur ou un maçon. Donc, il y a un vrai problème de gouvernance au niveau local
En tant que vice-présidente de région, je peux vous dire qu'on a vraiment voté un plan d'apprentissage qui est le plus favorable de France. À l'heure où je m'exprime, il y a encore la moitié de nos classes qui sont... Enfin, le taux de remplissage de nos classes est de 50%. Et j'ai encore rendu visite dans des classes la semaine dernière où il y a 2 inscrits sur des classes de 12 alors que les contrats des entreprises existent.
Oui, mais là, c'est un vrai sujet qui doit nous interroger tout le monde. Pourquoi est-ce que nos enfants n'ont pas forcément envie d'aller dans certains métiers manuels? Quelle est l'image qu'on donne? La télévision, est-ce qu'il y a beaucoup de feuilletons où le héros est un boulanger ou un charcutier? La plupart des héros sont... Pardon, c'est juste une question. Il y a la question de l'éveil de l'intelligence. Je pense que si on veut lutter contre l'échec scolaire, il faut aider les parents à réfléchir à leur rôle dans les premières années de la vie. Que l'éveil de l'intelligence, l'éveil du langage, les parents ont un rôle. Les premières années, les nounous ont un rôle. Le service public a un rôle. Donc, il y a des pays où, en mettant pas plus d'argent, on a 4 fois moins d'échecs scolaires. Parce que tous les acteurs sont responsabilisés sur la lutte contre l'échec scolaire et pour l'éveil de l'intelligence.
Alors, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, au Danemark. Si, dans ce pays, les métiers manuels sont un peu mieux considérés et moins mis à l'écart que les métiers, disons, plus intellectuels. Mais enfin, en tout cas, le Danemark est un des pays qui est présenté en général comme un pays exemplaire en matière de plein emploi. Danemark au pays du plein emploi, c'était même le titre d'un reportage qui est passé il y a quelques jours au journal télévisé de France 2. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Le Danemark, un pays de 5 700 000 habitants qui rend jaloux la France, car le royaume scandinave a vaincu le chômage. Avec un taux de seulement 4,2% depuis le mois de mai, le Danemark est en situation de plein emploi. Pour comprendre ce miracle danois, nous nous sommes rendus dans la banlieue de Copenhague, dans cette entreprise de 30 employés qui fabrique des pièces métalliques. Ici, en ce moment, le carnet de commandes est bien rempli. Le patron Stig Nalbandian a recruté 4 personnes ces 3 derniers mois. Pour lui, la principale explication, c'est la flexibilité. Ici, les employés travaillent 37 heures par semaine en moyenne. Mais si l'activité augmente, il peut leur demander de travailler jusqu'à 57 heures. Surtout, s'ils n'hésitent pas à embaucher, c'est qu'ils peuvent facilement licencier en cas de coup dur.
Voilà, extrait du reportage diffusé sur France 2 fin septembre. Karine Charbonnier, quand est-ce que Beck Industries va ouvrir une succursale au Danemark? Est-ce que, en tout cas, c'est un modèle qui vous semblerait intéressant pour être dupliqué en France?
Bah, ça interpelle un pays de plein emploi, un autre pays de plein emploi. Effectivement, c'est un pays qui a le point commun de connaître la flexi-sécurité comme l'Allemagne ou l'Angleterre à leur manière. Je ne dis pas que ce sont des pays paradisiaques. Il faut avoir une vision nuancée de ce que c'est. Mais le résultat, c'est que ce sont des pays qui connaissent le plein emploi. Pourtant, on vient de l'entendre avec 37 heures de travail moyen.
Parce qu'on peut licencier plus facilement, on peut embaucher aussi plus facilement.
Bah, il faut comprendre que quand le divorce est impossible, qui va se marier? C'est ça le problème en France. C'est exactement ça. C'est que
embaucher. Il y a eu des époques où on pouvait pas divorcer très facilement. Il y avait quand même des mariages. Hein.
Bon, enfin, je pense que vous comprenez mon image. C'est-à-dire qu'en France, embaucher quelqu'un, c'est un acte extrêmement grave qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes, qui engage à vie. Et donc, forcément, en France, il y a une phobie du recrutement. C'est un état de fait. On peut aimer ou ne pas aimer ça, mais c'est la réalité pure et simple. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est pas tant de pouvoir garder son poste, son travail à vie, que d'être en situation d'en retrouver un très facilement. C'est ça qui compte au fond. Et ce qui compte, c'est aussi que les entreprises puissent être pérennes sur le long terme. Il vaut mieux une entreprise qui puisse durer longtemps, quitte à ce que de temps en temps, elle se réorganise. Mais tant qu'en échange, on retrouve très facilement un travail, c'est pas grave et c'est ce que connaissent ces pays.
Mais si cette flexibilité dont vous parlez, enfin d'ailleurs vous avez employé le terme, c'est parce qu'il y a une flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'en contrepartie du risque de licenciement qui est plus fort qu'ailleurs, il y a une très forte prise en charge par la protection sociale des personnes en situation de chômage. C'est-à-dire qu'il y a une protection sociale qui n'est pas attachée principalement à l'emploi comme c'est le cas en France, mais qui est attachée à la personne. Et d'ailleurs, le niveau de prélèvement obligatoire au Danemark est très élevé. Donc, est-ce que c'est un système comme celui-là qu'il faudrait mettre en place en France?
Moi, je pense qu'il ne faut rien copier. Il faut inventer notre flexi-sécurité à la française telle qu'on a envie et qu'on est capable de construire un consensus. Mais il y a un vrai sujet de flexi-sécurité. Il faut les deux, la sécurité et la flexibilité.
Oui. Carla Rotureau, la flexi-sécurité est soluble dans la semaine de 4 jours? C'est-à-dire ça peut être deux façons d'aborder les choses qui sont compatibles.
Anna Arendt disait que si on met une seule étiquette sur quelqu'un, on le tue. Vous savez, je peux m'intéresser à d'autres choses. Mais cela dit, oui, c'est une façon de donner de la souplesse aux entreprises sans précarité. Mais je rejoins ce que disait Guillaume Goubert. Au Danemark, quelqu'un qui est licencié, c'est pas un drame parce qu'il va garder 90% de son salaire. 90% de son salaire, éventuellement pendant 4 ans. Parce qu'il y a un vrai accompagnement. Donc en France, quand quelqu'un est licencié, la perte de revenus est beaucoup plus faible. Et puis il peut dégringoler, c'est le niveau, et il ne peut pas avoir 4 ans. Donc est-ce qu'on est capable en France, au début d'un mandat, je pense que les pays qui ont réussi à vaincre le chômage, les pays du Nord, il y a eu ce qu'on appelle les accords de Wassenaar. Ils se sont dit, on a tous une responsabilité. Par exemple, les Pays-Bas avaient en même temps un déficit commercial monstrueux et un niveau de chômage catastrophique. Ils se sont dit, aucun de nous n'a les solutions, mais on va se mettre pendant 3 mois, tous les lundis, tous les mardis, tous les lundis, tous les mardis, on se retrouve, les patrons, les syndicats, les politiques. Et au lieu de s'engueuler devant les caméras, on débouche sur 15 solutions. Peut-être qu'on peut licencier plus facilement, mais il y a une vraie sécurité pour les salariés. On baisse le temps de travail et l'entreprise s'y retrouve parce qu'elle a moins de cotisations si elle crée des emplois. Ce qu'on appelait les accords de Wassenaar, c'est 10 ou 15 mesures. Et au bout de quelques années, ils avaient retrouvé l'équilibre de la balance commerciale. Ils avaient divisé par 4 le chômage et divisé par 4 les petits boulots. Est-ce qu'on est capable en France, au début du prochain mandat, de se dire on arrête les blagues, le pays peut s'effondrer à cause du chômage et de la précarité, nous ne sommes plus capables d'accueillir des réfugiés. Moi, quand j'étais petit, sorti, on avait trois boat people à la maison, la France avait accueilli 150 000 réfugiés. Aujourd'hui, on est deux fois plus riche, on donne l'impression qu'on n'est plus capable, à cause du chômage, d'accueillir les réfugiés. Donc le chômage est en train de tout foutre en l'air, le financement des retraites, le financement de la sécu, voilà. Est-ce qu'on est capable, au début du prochain mandat, de dire on arrête les blagues et on met tout sur la table et on voit qu'il y a des pays qui ont été capables de le faire.
Et en gardant en tête quand même que le système d'imposition des entreprises en France est basé sur le travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on paye net de CICE et des différents avantages fiscaux pour les entreprises, environ 40% de charges sociales. C'est 20% en Allemagne, c'est 16% en Angleterre. On en paie le double. Pourquoi ? Parce que dans les cotisations sociales qui sont versées par les entreprises, il n'y a pas que des cotisations d'assurance, santé, retraite et chômage. Il y a énormément d'impôts déguisés. Parce qu'on a choisi en France de baser un certain nombre d'impôts sur l'emploi. Et PwC, dans son étude annuelle qui s'appelle Pay in Tax, a même dit que 80% des impôts et taxes qui sont payés par les entreprises, ce sont les charges sociales. Parce que les charges sociales, en fait, grèvent tellement les revenus des entreprises que de toute façon, l'impôt sur le revenu, sur le résultat des entreprises ne rapporte plus rien. Moi, je pense qu'un levier pour créer de l'emploi en France, ce serait évidemment de supprimer les 15%, les 15 points de cotisation sociale sur l'emploi, qui sont de l'impôt déguisé et qui ferait un bol d'air monumental de compétitivité pour les entreprises.
Alors, les leviers pour créer de l'emploi, aujourd'hui, on a quand même l'impression que, à la faveur de certaines annonces, on est surtout dans des interventions pour essayer de préserver l'emploi. Vous voyez à quoi je pense, c'est évidemment le dossier Alstom avec cette très forte intervention de l'État qui va commander des rames TGV pour 500 millions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis au niveau un peu plus local, il y a aussi des interventions qui sont faites. J'ai regardé un petit peu ce qu'avait dit le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dans une conférence de presse cette semaine qui était consacrée justement à l'emploi. Il prenait le cas d'une entreprise, alors je ne la connaissais pas, l'entreprise Calverte, vous devez la connaître, Karine Charbonnier, qui est une usine de pièces mécaniques dans le département du Nord. Et Xavier Bertrand expliquait que c'était une entreprise qui connaissait des difficultés de trésorerie. Nous lui avons accordé une avance remboursable de 150 000 euros et 45 emplois ont été préservés. Est-ce que la puissance publique est dans son rôle lorsqu'elle intervient un peu en pompier, lorsque des entreprises connaissent des difficultés plus ou moins passagères ?
Bien sûr, je pense que la région est tout à fait dans son rôle, dans la mesure où elle intervient sur des difficultés conjoncturelles et pas structurelles, pour aider une entreprise à passer un mauvais cap et préserver l'emploi. C'est quelque chose sur lequel la région de France se déploie énormément depuis le début du mandat, entre autres. On aide aussi à l'investissement. On offre aussi
donc,
des services.
Donc oui, à l'aide conjoncturelle, mais pas de participation à la stratégie des entreprises, c'est ce que vous dites ?
Non, pas du tout. Par contre, on a une vraie stratégie pour être une région, on appelle ça pro-business. Par exemple, on aide les petites entreprises à recruter, on offre des services de recrutement où on les aide à mettre en place des formations pour accompagner leur recrutement, pour faciliter, être un liant, accélérer les recrutements, par exemple.
Il faut un peu de colmatage de la part de l'État ou de la part des régions pour les entreprises.
Je suis de vos ricanements d'il y a un quart d'heure quand on proposait qu'il y ait un bouclier pour les PME pour éviter qu'elles meurent à cause des factures non payées. Je suis étonné vu ce que vous faites dans votre région. Mais c'est pas grave.
C'était pas un ricanement.
Si, c'était un ricanement. Mais tout le monde a le droit de ricaner. Par contre, surtout que ce que vous faites en région
pour
accompagner les PME.
Méchant ricanement, quand même.
Ce que vous faites dans votre région est très bien pour accompagner les PME et ou le retour vers l'emploi. Et qu'en même temps, ça ne suffit pas. Je crois que vous dites que vous avez accompagné 60 000 personnes en un an. C'est très bien. Et en même temps, le chômage continue à augmenter. Chiffres de toutes les régions. Il y a 576 000 chômeurs dans votre région, 1% de plus qu'un an. Donc, en même temps, cet accompagnement est tout à fait indispensable, surtout pour éviter le chômage d'exclusion, que les entreprises ne se tournent pas uniquement vers les salariés les plus qualifiés ou les chômeurs les plus qualifiés. On voit que ça ne suffit pas. Il faut changer les règles du jeu au niveau du pays, au niveau de l'Europe. Si je n'ai plus qu'une minute, je voudrais insister sur l'aspect européen.
Vous n'avez plus qu'une minute à deux.
Est-ce qu'on continue le dumping social ou est-ce qu'on est capable d'avoir pour lutter contre les délocalisations ? En 2003, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, on avait proposé un traité de l'Europe sociale. Un traité de convergence sociale. Est-ce qu'on est capable de se dire stop au dumping ? Est-ce qu'on est capable, comme la Banque Centrale Européenne dit qu'elle va créer 1000 milliards, c'est quand même colossal, il y a un tabou qui est tombé, la Banque Centrale va créer 1000 milliards, est-ce qu'on les donne aux marchés financiers pour qu'ils spéculent ? On a bien aimé 2008, on aimerait que la prochaine fois ce soit encore plus fort, ou est-ce qu'on se dit que les 1000 milliards vont pour un plan Marshall pour sauver le climat, que pendant 20 ans, la France, l'Allemagne, l'Italie aient de quoi financer les économies d'énergie et les énergies renouvelables ? Ça peut créer plus de 5 millions d'emplois au niveau européen, ça fait 2 ans qu'on porte cette idée, il serait temps qu'on la mette en place. Est-ce que l'Europe est toujours au service des marchés financiers ou est-ce que l'Europe est au service des peuples et du climat ?
tout ça n'est pas réaliste. Ah on bon peut rêver, j'y crois pas une seconde. Attendez, moi, je pense
madame,
que si on est très pragmatique...
Mario Draghi va les créer. Il est en train de les créer pour de vrai.
Laissons que conclure, Karine Charbonnier, parce que j'ai la fin de l'émission.
Je garde ma casquette de chef d'entreprise, les pieds sur terre, qui a du bon sens. Je pense qu'à court terme, la seule chose qu'on peut faire, c'est converger vers nos voisins européens. C'est notre seule issue réaliste et concrète. Si on fait pareil qu'eux, on créera de l'emploi.
Voilà. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion que vous aviez déjà entamée dans le journal La Croix. Peut-on encore espérer le plein emploi? On peut évidemment relire vos interventions l'un à l'autre, réécouter cette émission sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci beaucoup Guillaume Goubert de nous avoir accompagnés ce mois-ci. À nouveau, Karine Charbonnier, donc un livre apparaît dans quelques jours, Pierre Larouturou, Einstein avait raison, ça a été publié aux éditions de l'Atelier. Rappelez-moi votre éditeur, Karine Charbonnier.
Albin Michel.
Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Demain, ce sera le Club des idées du vendredi et qui sera présenté par Mélanie Chalandon avec la question suivante. Est-ce que le changement démocratique, c'est maintenant ?